Bonsoir. Peut-être avant de commencer, j'aimerais en fait vous apporter deux petites précisions. Première précision, du coup, c'est que l'ensemble des propos et l'analyse qui va faire viennent d'observations sur le terrain, d'observations de longue durée relativement, vu que j'ai été pendant 2 ans sur une structure de l'éducation nationale et pendant 6 mois dans un centre médical. Et que ces analyses proviennent aussi de témoignages importants que des professionnels m'ont confiés pendant ce moment où j'étais sur le terrain. Et la deuxième précision, c'est vous dire que l'analyse repose sur un secteur précis qui est le secteur médico-social. Non pas que la souffrance n'existe pas dans les autres secteurs ou qu'elle est plus prépondérante dans ce secteur-là, mais tout simplement parce que de ma formation, j'ai été amenée vers ce secteur-là et que c'est celui que je connais le mieux en l'occurrence. Donc peut-être pour commencer, dans un premier temps, essayez de vous définir ce que c'est que la souffrance au travail, parce qu'on en entend parler un peu tous les jours en ce moment, et qu'on ne sait pas trop à quoi ça fait référence, et que c'est surtout devenu un terme un peu fourre-tout. Donc vous dire concrètement ce que ça signifie. Alors avant de savoir ce que c'est que la souffrance au travail, peut-être essayer de savoir ce que c'est que la souffrance. Dans l'ancien français, la souffrance, en fait, désignait une action, celle de supporter, celle de soutenir, celle de résister. C'était essayer de tenir debout malgré tout. Ce sens de l'ancien français qui a été donné à la souffrance se rapproche beaucoup de l'approche philosophique, qui disait en fait que la souffrance était l'expression d'une lutte constante, du sujet vivant qui cherchait à répondre à ses besoins, qui cherchait à répondre à ses désirs et qui recherchait du plaisir. En somme, la souffrance, c'était ce qu'il y avait de plus vivant dans le sujet qui ne se laissait pas réduire. Dans le sens actuel, dans le langage commun, la souffrance désigne plutôt un état pénible, c'est avoir mal. C'est un état d'endommagement, d'assujetti. Donc, elle fait référence plutôt à l'idée dans ces cas-là de subir, de soumission, c'est-à-dire d'accepter de façon involontaire quelque chose de l'extérieur. Et ce n'est que très tard, dans les années 80, fin des années 80 notamment, avec Christophe Dejour, que le terme de souffrance a été associé à celui de travail. Et ce n'est pas, ce n'est pas étonnant parce que le travail, au même titre que la souffrance, a un aspect positif, tout comme il a un aspect négatif. Un aspect négatif dans le sens où le travail a, dans un premier temps, a été désigné à travers tripalium, c'est-à-dire l'instrument de torture. Il a été subi par les esclaves ou par les prisonniers. Donc il était considéré comme une punition, au final. Mais à partir des années 60, on se rend compte que le travail, c'est aussi un élément de construction de soi. C'est aussi une construction identitaire, quelque chose qui épanouit l'individu. Donc, qu'est-ce que c'est au final la souffrance au travail, une fois qu'on a dit tout ça? Les premières recherches sur la souffrance au travail sont apparues notamment à travers des recherches sur les conditions de travail dans les usines. Et on a qualifié 2 termes pour désigner ce que vivait l'ouvrier au travail. Le premier terme a été celui de la charge physique, qui mettait l'accent notamment sur les conditions de travail de l'usine. Il y avait des longues journées de travail, plus de 16 heures souvent, des cadences infernales imposées par la machine, des mouvements répétitifs qui amenaient sur le long terme des dysfonctionnements, des mains, des bras, etc. Et l'ensemble de ces conditions aboutissait souvent à des maladies professionnelles, à des accidents de travail. Donc dans un premier temps, la souffrance au travail a été pensée à travers l'atteinte au corps physique, l'atteinte à la santé physique. Le deuxième terme qui fut évoqué pour qualifier ce que vivait l'ouvrier dans les usines fut celui de la charge mentale. Et là, on venait mettre l'accent plutôt sur l'organisation du travail. Parce qu'en effet, la spécialisation, la mécanisation des tâches, la partialisation des tâches a introduit une dichotomie stricte entre le cerveau et les mains. Et on a oublié que le salarié, que l'ouvrier à ce moment-là avait un potentiel de créativité, d'innovation, qu'il avait un savoir-faire qui se transmettait de génération en génération. Avant l'usine, cet ouvrier, il concevait son travail de A à Z. Il voyait le produit fini et puis il le faisait à son rythme et avec la qualité à laquelle prétendait son travail. Avec cette dichotomie entre le cerveau et les mains, on a juste rendu l'ouvrier serviteur d'une machine, aliéné à elle. Donc on se rend compte qu'en enlevant à l'ouvrier ce potentiel de créativité, de travail bien fait, la souffrance désigne non plus l'atteinte au corps physique, mais l'atteinte à la santé mentale. Pour comprendre d'autant mieux ce que signifie cette charge mentale, le gouvernement japonais, au même moment, toujours pour qualifier ce que vivait l'ouvrier au travail, a inventé un terme, qui était le karoshi. Le karoshi, en fait, était un état qui désignait quatre éléments. Le premier élément, c'était que le salarié était placé dans des pratiques de travail psychologiquement malsaines. Ce premier élément vient nous montrer qu'en fait, ce sont les composantes mêmes du travail qui amènent l'ouvrier à une certaine forme de souffrance et que par conséquent, il faut aller voir qu'est-ce que ces composantes de travail viennent mettre à mal chez le salarié. Le deuxième élément du karoshi, c'était que ces pratiques de travail psychologiquement malsaines sont amenées à se perdurer. Ça signifie que la souffrance au travail est un phénomène répétitif et continu que l'individu subit plusieurs années, voire plusieurs mois durant. Le troisième élément que vient qualifier ce karoshi est que ces pratiques de travail psychologiquement malsaines et qui sont amenées à perdurer entraînent des déficits physiologiques, c'est-à-dire de la fatigue, des tremblements, des insomnies, de l'angoisse, souvent dues à un état de surmenage, c'est-à-dire l'impression d'en avoir trop à faire et de ne pas avoir assez de temps pour pouvoir le faire. Et enfin et surtout, le karoshi désigne une issue, un effondrement, dans la mesure où concrètement, littéralement, le karoshi signifie « mort par la fatigue au travail ». La mort ici n'est pas entendue bien sûr comme une mort physique, mais comme une mort mentale. Ces deux réalités, que sont les pratiques de travail psychologiquement malsaines et l'état de surmenage, correspondent aujourd'hui à ce qu'on appelle couramment le stress professionnel. Et les travaux sur le stress nous donnent en fait une analyse multidimensionnelle de ce que peut être la souffrance au travail. Et ils se regroupent sous trois modèles. Un premier modèle qui est biologique et qui vient nous dire en fait que la souffrance au travail, c'est une réaction de notre organisme face à divers stresseurs qu'on subit de l'environnement. En somme, ce modèle vient nous dire que la souffrance au travail, c'est une résistance de notre organisme. Le second modèle, qui est le modèle cognitif, vient nous dire non, la souffrance au travail, ce n'est pas une conséquence, mais c'est surtout, avant tout, une cause de quelque chose. Et ce modèle vient nous dire la souffrance au travail, c'est un attribut de l'environnement, un environnement qui met l'individu en permanence sous tension. Donc il nous dit en fait, la souffrance au travail, c'est un ensemble de symptômes dus à un environnement de travail malsain. Et on a un troisième modèle du stress au travail qui s'appelle le modèle transactionnel et qui nous dit en fait que la souffrance au travail, ce n'est ni une réponse exclusive de notre organisme, donc ni une résistance, et ce n'est ni une cause exclusive, mais c'est bien les deux. C'est à la fois de la résistance et à la fois du symptôme, parce que c'est une transaction entre l'homme et son environnement. Et c'est cette notion actuelle, c'est ce sens actuel en tout cas que l'on retrouve dans la notion de souffrance au travail, qui a été développée à la fin des années 80, en 88 exactement, par Christophe Dejour. Et Christophe Dejour vient nous dire que dans toutes les activités de travail, quelles qu'elles soient, c'est l'ensemble de la personnalité de l'individu qui est engagé. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'au travail, l'individu investit son histoire personnelle, c'est-à-dire une histoire porteuse de sens, d'espoir, d'idéaux. À ce moment-là, on comprend alors que dans le travail, l'homme investit sa subjectivité. La souffrance au travail naît lorsque cette subjectivité, justement, est niée par l'organisation du travail. Elle naît lorsque le rapport entre l'homme et le travail sont bloqués par un environnement dans lequel il s'inscrit. En somme, lorsque l'individu ne peut plus voir le sens qu'il donne à son travail, ne peut plus y investir une subjectivité. Qu'en est-il alors aujourd'hui de cet environnement ? Alors, depuis une vingtaine d'années à peu près, Les entreprises, les organisations, les institutions sont à l'heure de la modernisation. Cette modernisation engendre de nouvelles pratiques professionnelles soumises à ce qu'Alain Lipietz nomme le libéral productivisme. C'est-à-dire que ces pratiques professionnelles sont soumises aujourd'hui à un système contraint par le marché mondial, la concurrence et surtout une logique capitaliste à laquelle est associée la notion de rentabilité. Il s'agit d'un système en fait terriblement prédateur pour l'homme, dans la mesure où il place ce dernier dans ce qu'on appelle le double blind organisationnel, c'est-à-dire dans des deux mondes contradictoires sans possibilité réelle de choisir, c'est-à-dire dans une multitude de contradictions dans l'exécution de sa tâche. Cette modernisation, au nom de la rentabilité, prend des formes diverses, appelées flexibilité, mobilité, restructuration ou encore intensification du travail. Concrètement, au sein des entreprises, elle se traduit par deux logiques. Une logique de l'urgence, où il s'agit de faire toujours plus vite, avec toujours moins de temps et toujours moins de moyens, humains et matériels. Et une logique managériale, imposant une véritable dictature de la subjectivité au travail, où l'autonomie et la responsabilité sont des thèmes de prédilection. Alors là, vous allez me dire, j'utilise souvent le terme subjectivité et on comprend plus trop dans quel sens on peut l'employer. Je l'ai utilisé dans une première fois en vous disant que l'homme, dans son travail, investissait sa subjectivité et qu'il y avait souffrance justement lorsque cette subjectivité était niée. Et là, dans mon propos, je viens vous dire que le management impose une dictature de la subjectivité. On pourrait se dire qu'il y a un paradoxe, mais il n'y en a pas. Parce que la subjectivité, justement, à ce moment-là, est instrumentalisée par le management et qu'elle permet au management, justement, et au manager de faire de cette subjectivité l'instrument même de l'obtention du travail. À partir du moment où cette subjectivité est instrumentalisée, forcément, ça signifie qu'elle est niée. À partir du moment où elle est niée, forcément, ça signifie qu'il y a souffrance. Donc, au nom de la modernité, au nom de la modernisation, au nom de la rentabilité, les institutions multiplient les procédures, les réglementations, les objectifs incompatibles entre eux, créant un véritable climat d'insignifiance au travail. Il s'agit donc, dans cet exposé, de vous dire dans un premier temps, d'essayer de vous expliquer dans un premier temps comment se construisent ces incohérences, comment se construisent les paradoxes au travail, pour ensuite essayer de voir le prix que payent les individus, le prix de ces incohérences, et peut-être comment ils essayent de résister à ça. Donc, commençons d'abord par les incohérences. Les années 80 sont une année clé dans la mesure où on assiste à un bouleversement de l'économie. On a, à partir des années 80, une diffusion des nouvelles technologies d'information et de communication, mais on a surtout un contexte économique qui devient de plus en plus accru au niveau de la concurrence. Et ce contexte économique impose de plus en plus aux entreprises, aux organisations, des exigences de qualité, de délai, de rentabilité et d'efficacité. Ça signifie que les entreprises, les organisations, les institutions doivent être capables d'une adaptation continue aux évolutions économiques. Pour faire face à cette adaptation, l'entreprise va faire appel aux capacités d'initiative, aux capacités de créativité, aux capacités de réactivité des salariés. On voit alors naître un nouveau mode de management dont le but est d'essayer de développer une plus grande implication des salariés en suscitant leur participation dans les différents processus organisationnels. Ce management, appelé management démocratique ou management participatif, est basé sur les meilleures intentions du monde. Il prétend libérer les salariés du carcan hiérarchique, des rapports de commandement, de la soumission et des contraintes, afin que chaque salarié, justement, puisse s'impliquer librement dans la définition des objectifs et dans les projets de l'entreprise. Mais il ne faut pas se tromper. Derrière ces meilleures intentions du monde, il n'y a qu'une intention simple, celle de trouver de nouvelles formes d'engagement des ressources individuelles. Donc, la participation accrue des salariés dans leur organisation devrait soi-disant permettre de libérer l'esprit d'innovation, l'esprit d'initiative de ces derniers. Ces meilleures intentions du monde, en fait, ne sont qu'un prétexte pour associer le salarié au changement qui s'opère dans son travail, ne sont en fait qu'un prétexte pour pouvoir développer les capacités individuelles dans la mesure où, dans ce contexte économique accru en termes de concurrence, ces capacités du salarié deviennent la principale performance de l'entreprise. Donc, cette quête d'une nouvelle gestion des hommes par la participation des salariés passe à partir des années 90 par une véritable dictature des compétences qui convoque justement l'affect, l'intelligence et la subjectivité des sujets au travail. En effet, face à un contexte concurrentiel, face à un contexte économique toujours plus gourmand en termes d'efficacité, toujours plus gourmand en termes de rendement, les qualifications de l'homme ne suffisent plus, son savoir-faire seul ne suffit plus. Donc, les compétences sont entendues comme la pertinence des initiatives et de prise de responsabilité des sujets afin de s'adapter à la montée des exigences concurrentielles. Le management démocratique, on le comprend alors, est un management des sentiments, des émotions, des valeurs, du potentiel individuel. Il passe en l'occurrence, vous le comprenez bien, par des processus psychologiques pour asseoir une autorité et une adhésion des individus au travail sous un discours libérateur, sous de pratiques libératrices, alors qu'en réalité, ces pratiques ne servent qu'à canaliser l'énergie et le pouvoir des salariés et donc à maintenir d'autant plus leur soumission. Parmi ces pratiques, on va en analyser deux notamment, que sont l'autonomie et la responsabilité. On va commencer par l'autonomie. L'autonomie sous-entend à la fois la possibilité de décider par rapport à un pouvoir central, par rapport à une hiérarchie, mais aussi l'indépendance. L'autonomie est donc censée, par rapport au discours managérial, bien sûr, apporter aux salariés du pouvoir, le pouvoir de décider et le pouvoir d'exercer librement son activité indépendamment de toute autorité. Ainsi, pour le management démocratique, l'autonomie est un outil qui libère les salariés de tous les liens verticaux, de tous les liens de dépendance verticaux, c'est-à-dire de tous les liens de dépendance avec la hiérarchie, et elle lui octroie la possibilité de se soustraire de toutes les contraintes extérieures, c'est-à-dire des normes, des règles, etc. Donc, alors que l'autonomie prétend soi-disant libérer le salarié de tous les liens de dépendance, on se rend compte que celle-ci n'a jamais été aussi présente. Donc là encore, il ne faut pas se leurrer sur l'autonomie. L'indépendance des salariés dans la prise de décision et dans le libre exercice de leur activité n'est qu'un leurre. Pourquoi ? À partir des années 80, justement, se dessine une nouvelle modélisation du fonctionnement des entreprises, des organisations, des institutions. Parmi les mutations, justement, de cette modélisation de fonctionnement des organisations, il y en a une principale qui est l'éclatement des sphères décisionnelles. Ce que je cherche à vous dire, c'est qu'auparavant, le chef d'entreprise, le patron, avait le choix de décider de ce qu'il pouvait faire pour son entreprise lorsqu'un problème intervenait, lorsqu'il y avait des changements. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'ensemble de ces décisions sont enfermées dans des réformes politiques et économiques qui les guident. En l'occurrence, le chef d'entreprise ne décide plus pour son entreprise. Pourquoi ? Parce que les décisions sont déjà prises à des niveaux bien plus hauts. Alors même qu'on prétend, soi-disant avec l'autonomie, libérer le pouvoir décisionnaire des salariés, ces derniers se retrouvent avec une multitude de décisions qui sont déjà prises en amont. Ce qui se passe, c'est que ces décisions, elles viennent non seulement fixer des objectifs à atteindre, notamment en termes de résultats, en d'autres termes, en termes de chiffre d'affaires, parce que c'est ce qui compte aujourd'hui, mais aussi en termes de moyens alloués, moyens humains, et moyens matériels. Lorsque le chef d'entreprise reçoit l'ensemble de ses décisions, qu'il n'a pas choisies au final, mais avec lesquelles il est toutefois d'accord, il va convoquer une multitude d'experts pour pouvoir transformer ses objectifs en recommandations, en prescriptions, c'est-à-dire en ordre formel et détaillé. Aujourd'hui, on a des multitudes de décisions qui reposent sur des domaines divers. On a des décisions sur la qualité, des décisions sur la gestion des dépenses, des décisions sur l'hygiène, sur la sécurité, sur les risques professionnels. En d'autres termes, à chaque fois qu'il y a une décision qui tombe dans un domaine, le chef d'entreprise fait appel à un expert spécialisé dans ce domaine. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Je vais vous prendre l'exemple des infirmiers parce que c'est celui que je connais le mieux. On a chez les infirmiers une décision qui tombe sur la qualité et qui vient dire, voilà, les infirmiers, pour pouvoir prétendre à un soin de qualité, doivent faire leur travail comme ça. Du coup, les experts qui sont convoqués vont venir nous dire sur la qualité, pour chaque pathologie, pour chaque maladie, ce que doit faire l'infirmière pour pouvoir faire un soin de qualité. Donc, pour chaque pathologie, on aura une description de la tâche sur plusieurs points, 20, 10, 30, pour chaque pathologie. De l'autre côté, on a une décision qui tombe sur la gestion des dépenses. On va donc convoquer un expert pour la gestion des dépenses. Cet expert, il va venir nous dire, « Ok, j'ai tel montant à ma disposition pour une année. Je vais prendre X montant, X euros, pour l'attribuer au personnel. Ça signifie que sur un an, je ne pourrai pas avoir plus de temps de personnel. Je vais prendre tel montant et je vais les attribuer au matériel, au moyen. Ça signifie que sur une année, je ne pourrai pas avoir plus de matériel que ça. » Ce qui signifie que, par exemple, pour les infirmières, on cotatise, je ne sais pas si ça se dit, les gants, les blouses, les bonnets, tout ce que vous voulez au mois. Et de l'autre côté, on a l'expert de l'hygiène qui vient nous dire, ok, mais pour avoir une hygiène correcte dans les hôpitaux, il faut pouvoir se laver les mains correctement. Alors il va mettre une prescription sur le lavage des mains en 10 points, allant de comment on se mousse jusqu'à comment on se les essuie. Il va mettre une prescription ensuite sur comment on stérilise le matériel, encore en 10 points. Vous imaginez ce que ça produit lorsque l'ensemble de ces prescriptions aboutissent sur le salarié, en l'occurrence ici, aboutissent sur l'infirmière. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on va arriver à une réunion et qu'on va dire à une infirmière, bon ben voilà, l'expert de la gestion des budgets nous a dit qu'aujourd'hui, on n'avait plus les moyens de pouvoir prendre, par exemple, 2 infirmières pour un service. Donc on aura aujourd'hui une infirmière pour un service de 50 patients. Et en même temps, vu qu'on n'a toujours pas de budget, du coup, cette infirmière, il faudra qu'elle fasse ses soins en 2 heures. Donc on a une infirmière pour 50 patients avec des soins à faire en 2 heures. Et de l'autre côté, lorsqu'elle va travailler, on lui dit oui, mais tu as 5 minutes pour te laver les mains, tu as 10 minutes pour essayer de stériliser ton matériel. Et puis en même temps, il faut que tu assures quand même un soin de qualité. C'est pas possible, c'est pas gérable. Par contre, en revanche, on lui dit, ok, t'as toute l'autonomie que tu veux pour pouvoir gérer ces incohérences dans ton travail. Il n'y a aucun problème. Vous comprenez bien à ce moment-là qu'on demande au salarié, qu'on met le salarié dans une situation profondément contradictoire et profondément déstabilisatrice. Pourquoi ? D'une part, parce que le salarié est sommé d'exercer librement son activité, en même temps qu'on lui fait savoir qu'il doit se conformer à des normes précises, il est invité à décider en toute autonomie, en même temps qu'on lui fait savoir qu'il n'a pas le choix de décider, et de l'autre côté, il est invité à se déprendre de tous les liens avec la hiérarchie, avec l'autorité, en même temps qu'on lui fait savoir que cette autorité subsiste. Mais qu'elle est un peu confuse parce qu'on brouille tous les liens. Et pourquoi on brouille tous les liens ? Justement, pour ne pas que le salarié puisse savoir à qui s'adresser. On comprend à partir de ce moment-là que l'autonomie, ce n'est pas le pouvoir de décision, ce n'est pas le pouvoir d'exercer librement son activité. L'autonomie, c'est s'auto-nommer. Le moi, le je, ce que je suis dans mon travail est la seule référence. Pourquoi ? Parce que le salarié, justement, se retrouve avec toutes ces incohérences. Et qu'en même temps, il n'y a plus personne parce qu'il ne sait plus à qui s'adresser. Donc c'est à lui de décider, dans cet ensemble d'incohérences, ce qu'il doit faire. Là, en effet, il y a de l'autonomie, il n'y a aucun problème. Parallèlement, si l'autonomie, ainsi que le mentionnent les managers, c'est la césure de tous les liens de dépendance avec la hiérarchie, c'est en revanche la valorisation de tous les liens horizontaux, c'est-à-dire la valorisation de toutes les relations avec ses pairs, la valorisation de l'échange, la valorisation de la coopération. Là encore, il ne faut pas se leurrer. Pourquoi ? Parce qu'afin de s'assurer que chacun va développer le maximum de son potentiel, le maximum de ses performances, sont mis en place des processus, des dispositifs de contrôle et d'évaluation du travail. Ces dispositifs sont mis, sont faits et émis par les mêmes experts qui établissent les prescriptions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'expert de qualité qui va établir ces prescriptions, il va à la fois établir des normes de contrôle pour être sûr que ces prescriptions vont être satisfaites. Et ainsi de suite pour tous les experts. Le but de ces processus de contrôle, de ces processus d'évaluation, est de mettre en place des systèmes de sanctions-récompenses afin de réprimander ou de favoriser le salarié qui aura justement qui aura le mieux atteint les objectifs. On se rend compte donc ici que ces dispositifs de contrôle sont faits sur l'individu et non pas sur le groupe. Donc, alors que l'autonomie fait appel à la compétence individuelle et que les dispositifs de contrôle viennent évaluer la performance individuelle, on comprend bien dans ce contexte que la coopération n'est pas possible parce que justement l'autonomie et ces dispositifs de contrôle met en concurrence les salariés les uns avec les autres. On comprend alors le vrai sens de l'autonomie. Être autonome, celui qui n'est pas solidaire de quelque chose. L'autonomie prend donc encore une fois une forme de dérégulation au travail, dans la mesure où elle vient briser les collectifs. Dans la mesure où elle, en brisant les collectifs, elle vient en même temps briser toute protection du salarié en le rendant malléable et vulnérable. Parce qu'en effet, tout seul, on n'est pas aussi fort qu'uni. Parce que tout seul, on n'ouvre pas autant sa gueule, excusez-moi l'expression, qu'en étant uni. Parallèlement, les procédures de contrôle et d'évaluation, en venant donner à celui qui le détient un pouvoir de récompense ou de coercition, il vient juste ranimer l'idée que l'autorité subsiste. Pardon ? Ô combien ? Oui. Le deuxième outil de la compétence, je vous l'ai dit tout à l'heure, est la responsabilité. Et cette dernière découle en fait directement de l'autonomie. Pourquoi ? Parce qu'investir les salariés du soi-disant pouvoir de décision, du soi-disant pouvoir d'exercer librement son activité, c'est aussi les rendre responsables des décisions, des objectifs, de la compétitivité et de la réussite de l'entreprise. On assiste alors à un véritable phénomène de responsabilisation des salariés au travail dans la mesure où, en faisant appel à leur capacité d'initiative, à leur capacité d'ajustement, on fait appel également à eux pour parer les dispositifs et les différents aléas organisationnels. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'infirmière qui sera dans sa situation de paradoxe et d'incohérence, eh ben, ça sera à elle de se démerder sur le lieu de travail et ça sera à elle de montrer qu'elle réussit à faire son travail malgré tout. Et s'il n'est pas fait, vu qu'on lui laisse la liberté et toute l'autonomie de pouvoir gérer librement son activité, la faute reposera sur elle. On a alors un transfert de responsabilité où c'est aux salariés d'assumer les dysfonctionnements, les problèmes organisationnels, mais d'assumer aussi la réussite ou l'échec des entreprises. On comprend alors que que la responsabilité, c'est bien lié. On comprend alors qu'en fait, dans ces conditions-là, la responsabilité met les salariés dans une condition où l'échec n'est pas de mise. Parce que c'est justement leur habileté personnelle et parce que c'est justement ceux qui vont être amenés à décider dans l'action malgré toutes les incohérences qui sont mis à l'épreuve. En l'occurrence, à ce moment-là, on comprend que la responsabilité amène les salariés à s'auto-normer au travail par un auto-contrôle de leur performance. Auto-normer, ça signifie bien que chacun évalue lui-même son propre respect des contraintes qui lui sont imposées. Parce qu'autrement, le travail ne pourrait pas être fait. Donc cette dictature des compétences qui convoque le savoir-être de l'individu, qui convoque chacun de vous dans leur singularité, dans ce qu'il est, entraîne une logique paradoxale qui entend à la fois rendre les salariés libres et autonomes et qui à la fois les rend d'autant plus soumis, qui à la fois brise, altère les rapports de solidarité, de coopération, altère les repères pour pouvoir débattre et agir et détruit la capacité d'agir des individus. L'autonomie, donc, et la responsabilité. Oui. Ah, bien sûr, bien sûr.
Attendez, c'est juste un petit point. Il y a, c'est tout est enregistré, y compris les questions. Et si vous voulez intervenir, il faut que vous preniez le micro, je vous le passe. Attends une minute.
Je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce qu'on peut vous couper de temps en temps pour...
Je ne sais pas comment c'est prévu, en fait. Donc,
si vous voulez, il y a...
Vous dites que le salarié, quand même, il va faire un effort intellectuel dans sa pomme. Donc moi, je suis un salarié.
Je ne vous entends pas bien, excusez-moi.
Le salarié, il va faire un effort, je ne sais pas comment il va le faire, d'ailleurs... pour se rendre compte que dans le médico-social, il va être d'accord avec son action. Il va être d'accord avec son action. C'est mieux, là. Et en même temps, il est d'accord avec son action personnelle, mais il n'est pas forcément en accord avec l'action qu'on lui demande dans le médico-social.
Alors, pas forcément dans le médico-social, mais ce que j'essaye de dire...
J'avais envie de vous couper 15 000 fois par seconde, tellement ce que c'est intéressant ce que vous dites. Et puis ça me touche, etc., etc.
Pardon ?
Ouais, évidemment. C'est vraiment... C'est un outil, un peu. J'aime pas trop.
Si vous voulez, il y a deux façons de faire... Attends, s'il te plaît. Si vous voulez, il y a deux façons de procéder. Soit on laisse Fatema... parler, et ensuite évidemment toutes les questions peuvent être posées, le plus souvent c'est ce qu'on fait, et puis pour pas se perdre, et puis c'est un peu...
Vous avez soulevé vraiment des questions qui sont vraiment la remise en question, justement la remise en question du salariat, qui me semble un des piliers du capitalisme, en fait. Ça peut être l'argent, le salariat. Et à ce titre-là, si vous le remettez en question, et si les gens sont d'accord, quels sont les moyens qu'on a pour remettre en question le salariat ? Parce que
j'y viens après.
Capitaliste de base.
J'y viens après.
Je suis content de vous croiser ce soir. Je vous remercie.
Moi aussi.
On laisse. Je ne sais pas, tu veux répondre ou est-ce qu'on peut... On la laisse finir ? Alors, laisse finir et après toutes les questions peuvent être posées, évidemment.
Donc je vais continuer, merci en tout cas. Et je ne sais plus trop où j'en étais, mais je crois que je vous disais qu'en fait, ce règne de la compétence, de la responsabilité et de l'autonomie vient mettre en fait hors champ l'expérience humaine au travail en déstructurant l'activité de travail elle-même. De ce fait, c'est tout un univers de signification qui s'effrite. L'expérience humaine étant entendue, étant rattachée au contenu significatif, c'est-à-dire au sens que chacun donne à son travail, mais également à la culture commune dans laquelle on s'inscrit chacun. Parce que, à la base, nos entreprises, nos organisations ont une culture dans laquelle à un moment on s'est reconnu et qui formait justement ce qu'on appelle l'identité professionnelle. Or, cette dérégulation, cette déréglementation du travail, justement, pour ceux qui les subissent en permanence, elle vient bannir le sens du travail, elle vient bannir les repères au travail. À partir de ce moment-là, lorsque le sens du travail ne se laisse plus voir, lorsque les repères se dissolvent, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en effet, l'ensemble de ces dérégulations crée un véritable travail en miettes. Qu'est-ce que ça veut dire travail en miettes ? C'est-à-dire un travail où chacun est amené à travailler dans l'urgence et dans la rapidité, avec qualité et précision. Mais qu'est-ce que ça signifie qualité ? Qualité ici, ce n'est pas entendu comme du travail bien fait, mais comme l'aptitude de chacun à répondre aux exigences, à répondre aux besoins, à répondre aux objectifs. Précision, c'est entendu dans le sens où justement l'exercice de l'activité doit être fait en respectant minutieusement l'ensemble des prescriptions et pas en faisant son travail justement de façon juste, telle qu'on l'entend chacun à notre manière. À partir de ce moment-là, face à ce travail en miettes, il y a trois sentiments qui émergent. Et dans ces trois sentiments, il y a une multitude de sentiments qui viennent se greffer. Le premier sentiment et le principal, c'est que les salariés ont le sentiment d'une perte de pouvoir sur leur activité face aux diverses incohérences dans lesquelles justement ils sont placés. Parce que la multitude de décisions, la multitude de prescriptions auxquelles ils ont à faire face sont non seulement contradictoires entre elles, mais elles sont aussi contradictoires avec les besoins et les demandes du terrain. Ce qui met chaque individu, chaque salarié, dans un cadre de fonctionnement qui n'est plus lisible, dans la mesure où les projets et les objectifs qu'on leur impose n'ont plus de sens. Aller dire à une infirmière que le projet de l'hôpital, c'est de faire de la gestion de dépenses de santé, et que l'objectif de l'hôpital, c'est d'aller faire de la rentabilité, ben, en effet, ça n'a pas de sens. Et on pourrait prendre l'ensemble de ces phénomènes pour divers secteurs. Donc, cette perte de pouvoir résulte d'un premier sentiment, qui est le sentiment d'être exclu de tout débat, de toute négociation sur son propre métier. Forcément, il en résulte l'idée d'un manque de reconnaissance, d'un manque de reconnaissance de la parole des salariés. Et lorsque cette parole est convoquée, via justement soi-disant l'idéal de participation des salariés, ceux qui participent justement à cette parole se rendent trop souvent compte que les décisions qui sont imposées ne rendent pas compte de leur parole, ce qui renforce encore plus le manque de reconnaissance. Dans un deuxième temps, le sentiment de cette perte de pouvoir de l'activité vient du constat d'une perte de contrôle de son activité, justement, via l'incapacité, l'impossibilité d'avoir les moyens de peser sur le système professionnel qui nous entoure, via l'incapacité, l'impossibilité de se soustraire aux contraintes qui sont imposées. Il en résulte pour le sujet, justement, l'impossibilité d'avoir une prise sur les événements extérieurs et l'impression de subir et d'obéir à un système dont il ne comprend plus le fonctionnement et auquel il n'adhère plus. Alors que l'autonomie, soi-disant, prétend libérer les salariés de la hiérarchie, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire ici qu'elle libère la hiérarchie des salariés, en creusant d'autant plus le fossé entre les décideurs et les salariés ? Ce qui renforce le sentiment de manque de reconnaissance, ce qui renforce chez chacun l'idée qu'on est exclu de tout débat. Le deuxième sentiment qui est évoqué face à ce travail en miettes est le sentiment d'une absurdité au travail, face au travestissement de l'activité de travail. Travestissement à la fois du contenu de l'activité et travestissement du sens de l'activité. Travestissement du contenu dans la mesure où les diverses décisions, prescriptions qui tombent, modifient les rythmes de travail, mais modifient aussi la façon de faire et de penser son métier, en faisant de l'activité qu'un simple acte d'exécution. Travestissement du sens dans la mesure où les prescriptions, les décisions, nient toute valeur du travail bien fait et nient également la subjectivité justement que le sujet injecte dans son travail. À partir de ce moment-là, les prescriptions, les décisions, ni la dimension qualitative et significative du travail pour donner la primauté à une dimension économique où la seule chose qui a du sens, c'est de faire du chiffre. C'est la rentabilité. Il en résulte du coup, chez le sujet, chez les salariés, l'impossibilité de saisir la finalité de son acte, c'est-à-dire l'intérêt des objectifs qu'on lui demande d'atteindre. À l'infirmière, lorsque vous allez lui dire que la finalité de son acte, c'est de faire un acte technique, alors que pour elle, la finalité de son acte, c'est soigner, bah forcément, elle comprend pas ce qu'on lui demande. Il résulte aussi l'impossibilité de comprendre l'utilité de sa fonction, c'est-à-dire ce qu'on attend de chacun. À l'infirmière, l'utilité de sa fonction, bah c'est justement le fait d'aider l'autre. Et l'aide de l'autre apporte souvent une image positive de soi, parce qu'elle est source de valorisation. Lorsqu'à l'infirmière, on vient lui dire l'utilité de ta fonction, c'est qu'à travers tes actes techniques, on pourra peut-être espérer avoir un petit budget supplémentaire l'année prochaine, bah ça n'a pas de sens. Forcément, on comprend qu'il y a à ce moment-là une impossibilité de s'accorder avec ce qu'on fait. Chaque professionnel a besoin d'une cohérence entre ses actes et le sens qu'il y donne. Il a besoin d'une adéquation entre ses valeurs individuelles et les valeurs de l'organisation. Or là, on se rend bien compte que les valeurs, les objectifs, les motivations de l'organisation sont en inadéquation avec les valeurs, les objectifs, les orientations et les souhaits de chaque salarié. Cette inadéquation, elle entraîne une double perte d'identité. La perte de l'identité personnelle, dans la mesure où en effet le salarié ne trouve plus de bénéfice symbolique que pourrait lui attribuer son travail, il ne trouve plus une image positive de lui-même face à la façon dont il est amené à exercer, mais aussi la perte de l'identité professionnelle, parce que c'est toute une culture collective qui s'efface. Alors qu'on s'identifiait justement à des valeurs, pour les infirmières, les valeurs que porte l'hôpital notamment, qui sont le don de soi, qui sont l'aide de l'autre, ben on ne se reconnaît plus là-dedans. Donc forcément, l'identité professionnelle disparaît aussi. Enfin, et surtout, le troisième sentiment qui est exprimé face à ce travail en miettes, c'est un sentiment d'échec et de dévalorisation de soi. La plupart des professionnels expriment de la honte, de la gêne, de la frustration, de la nullité. En effet, ne comprenant plus les objectifs qu'ils doivent atteindre, ce qu'il leur est demandé de faire, ce qu'on attend d'eux, chaque salarié remet en cause ses propres compétences, ses propres capacités, et il s'attribue ainsi les échecs de son travail. Le terme « échec » signifiant ici le fait qu'il ne soit plus capable d'assumer sa tâche telle qu'elle devrait être assumée, avec la qualité à laquelle elle prétend. Le terme « échec » signifie ici pour le salarié le fait qu'il soit contraint de mal travailler. Donc cette dévalorisation de soi, forcément, s'accompagne encore une fois d'une double perte. D'une part, la perte de ses objectifs personnels, la perte de ses buts personnels, de son sens personnel que l'on donne au travail, et d'autre part, la perte de l'idéal d'un métier. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette perte d'idéal du métier, elle entraîne une frustration, celle de la déception à l'égard de son métier, celle de la déception à l'égard du choix qu'on a fait, et celle de la remise en question de ses propres certitudes. À partir de ce moment-là, forcément, le travail devient un fardeau, dans la mesure où il n'épanouit plus. Pardon. Face à cette situation de souffrance et de dérégulation au travail, les individus ont tendance à s'impliquer davantage. Ils n'hésitent pas à faire des heures supplémentaires, ils n'hésitent pas à ramener du boulot chez eux. Certains reviennent même travailler lorsqu'ils sont au repos ou qu'ils ne sont pas d'astreinte. Ma première réaction, moi, quand j'ai vu ça, ça a été de me dire « mais c'est inapproprié, c'est pas cohérent ». Comment, face à autant de ressentis négatifs, comment, face à autant de souffrances créées par le travail, les gens continuent de s'impliquer ? Et surtout, pourquoi ? La réponse leur a été posée et l'ensemble des propos qui suivent viennent de leur propre témoignage. Mon but est que vous compreniez que dans la souffrance au travail, il ne faut pas voir qu'un phénomène paralysant, anesthésiant, mais aussi voir ce que cette souffrance recèle de vivant. Parce qu'en effet, face à cette souffrance au travail, les salariés ont une première réaction, celle de résister. Et pour moi, cette résistance est ce qu'il y a de plus vivant chez le sujet. Et j'ai appelé cette résistance la surimplication. La surimplication dans le langage courant désigne l'exploitation du sujet afin de marquer sa domination et son aliénation au travail. L'arrivée du phénomène de la souffrance au travail m'a conduit à réinterroger cette notion et du coup, je vais vous la présenter non pas dans son sens habituel, mais plutôt par rapport à ce que j'en ai déduit de sa signification. Parce qu'en effet, face à la surimplication, les professionnels viennent exprimer trois choses. La première chose, c'est qu'ils sont encore capables d'agir et qu'ils ont encore le pouvoir d'agir. La surimplication marque la volonté pour chacun de faire abstraction de leur contexte professionnel et de s'investir davantage dans leur travail pour continuer à faire ce dernier correctement, avec la qualité à laquelle il prétend. Par conséquent, par cet usage excessif de soi, le but est de mettre de la distance par rapport à un contexte professionnel déstabilisant afin de maintenir les valeurs de son métier, la valeur de ses actes, afin de vaincre le sentiment d'un travail mal fait et du coup de mieux s'accorder entre la conception qu'on a de son métier et la conception qu'on a de soi-même. Ainsi, en s'impliquant davantage dans son travail, le sujet tente de garder le contrôle de son contexte professionnel et le contrôle de son activité de travail. La surimplication marque en fait la volonté de se battre afin de maintenir les valeurs fondamentales et le sens de son métier. En s'impliquant davantage dans le travail, les professionnels tentent ainsi de corriger les erreurs qui découlent des déréglementations du travail afin d'essayer de contourner les difficultés et de les dépasser. Dans un deuxième temps, la surimplication vient exprimer la compensation. En effet, les salariés se sentant niés, les salariés se sentant oubliés, vont mobiliser le maximum de leur énergie et le maximum de leurs ressources individuelles pour montrer, pour dire qu'ils sont présents. On dit souvent que le manque finit par justifier la présence, et c'est le cas. Parce que par cet usage excessif de soi, chaque professionnel cherche à se faire reconnaître, à se faire remarquer, à se faire reconsidérer là où il ne l'est plus. Donc, la surimplication, en marquant cet effet de présence, vient marquer la volonté de chaque salarié de réanimer des liens distendus par les conditions et l'organisation du travail. Enfin et surtout, cette surimplication est un puissant moyen de marquer son opposition et sa résistance face à la déréglementation du travail. En effet, la surimplication marque la volonté de ne pas se laisser enfermer, de ne pas se laisser prendre par un contexte de travail déshumanisant et dévalorisant. Elle est un moyen que déploie chaque individu pour ne pas perdre pied, pour ne pas baisser les bras. Elle marque de ce fait la volonté de chaque travailleur de faire entendre qu'il n'est pas encore démissionnaire, qu'il n'est pas encore un simple exécutant. Donc la surimplication désigne au final une tendance à appliquer une conduite impliquée pour manifester un refus face à un système professionnel auquel on n'adhère plus. Le risque d'une telle attitude, et c'est là tout le paradoxe justement de la sphère professionnelle, c'est qu'elle soit instrumentalisée. Parce qu'en effet, on vient de le voir, la souffrance produit du travail. Mais si ce travail pour chaque professionnel signifie de la résistance, il signifie pour l'encadrement et les dirigeants du bénéfice. Pourquoi du bénéfice? Tout simplement parce que malgré le travail restreint, malgré toutes les contraintes, le professionnel y continue de s'impliquer. Le salarié y continue de faire son boulot. À partir du moment où la souffrance devient l'élément même de l'obtention du travail, forcément elle sera instrumentalisée et manipulée. À partir de ce moment-là, lorsque cette souffrance est instrumentalisée, lorsque justement elle devient pour les managers un élément d'obtention du travail, forcément le salarié qui se surimplique finit à un moment par baisser les bras, finit à un moment par arrêter la résistance, parce qu'ils se rendent bien compte que malgré tous ces efforts, ça ne change toujours pas. Donc on se rend compte que depuis le début, depuis la subjectivité dont j'ai parlé au début, il y a une instrumentalisation. Et à partir du moment où la subjectivité même est instrumentalisée, la souffrance même, forcément, est instrumentalisée. Donc, lorsque cette souffrance et le travail qu'elle produit sont instrumentalisés, c'est justement parce qu'en fait, chacun résiste individuellement. Chacun résiste dans son coin, sans forcément faire de pont avec ses collègues. en raison notamment de l'individualisation et de la dégradation des collectifs engendrés par les déréglementations du travail. Mon propos est de vous dire, et ça va être ma conclusion, que collectivement, cette résistance peut aboutir. Et je peux me permettre de vous le dire parce que je l'ai vu. Donc le but de ce travail est que chacun, dans un premier temps, puisse comprendre qu'il n'est pas le seul à souffrir, comme on nous le fait trop souvent croire. Que chacun puisse se rendre compte des mécanismes dans lesquels il est pris pour pouvoir faire de cette analyse un objet de lutte collective. Il est donc possible de lutter, mais à condition que nous fassions l'effort de recréer du lien pour faire face à l'individualisation. Merci.
Bon, voilà. S'il y a des questions... Ouais.
Je voudrais simplement un petit peu vous demander et peut-être d'élever un petit peu le débat en disant ou bien le travail ou bien la douleur qui vient sur le travail n'est pas indispensable. Est-ce que l'on ne peut pas imaginer un monde sans travail et sans douleur, par exemple? Je dois dire que ces notions de travail sont évolutives. Il y a, au milieu du 19e siècle, on travaillait 40 heures, les enfants travaillaient dans les usines, etc. Et actuellement, depuis 15 ans, il y a eu les 35 heures. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une évolution vers moins de travail, moins d'heures de travail, de plus d'assouplissement dans les qualités intrinsèques du travail? Bien sûr, c'est un sujet beaucoup plus psychologique et beaucoup plus philosophique ce que je retiens, c'est qu'actuellement, il faut des régulations. Vous êtes en train de dire il faut réguler le travail. Est-ce qu'il ne faut pas le supprimer complètement?
Ah non. Non. Pour vous répondre, monsieur, excusez-moi, je ne vous vois pas. Oui. Pour vous répondre, j'aimerais vous dire dans un premier temps que mon propos n'est pas de dire qu'il faut réguler le travail, mais au contraire, essayer de redonner à ce travail son sens premier, c'est-à-dire celui qui appartient au sujet. Et dans un deuxième temps, pour répondre à votre question, on va en effet vers moins de travail. C'est vrai, on est passé de 40 heures d'usine à 35 heures aujourd'hui. Mais est-ce que réellement... on peut se dire qu'on travaille moins dans la mesure où on doit en permanence combler cette réduction de temps de travail pour pouvoir arriver au final à faire son travail. Je crois que la question, elle se situe surtout au niveau des moyens et des réformes.
Le problème, en fait, c'est que la futurisation, est-ce qu'on a besoin de travailler dans le futur? Est-ce que, par exemple, les richesses de la nature ne vont pas nous donner l'occasion de ne plus travailler, de ne plus avoir de douleur?
Ben, on vit dans un joli monde à ce moment-là. Parce que le travail, avant tout, c'est aussi, monsieur, du plaisir. C'est aussi du plaisir. C'est aussi le plaisir de bien faire. C'est aussi le plaisir d'aller rencontrer ses collègues.
Le travail, c'est quand même une discrimination entre les riches et les pauvres. C'est-à-dire que les gens qui sont maltraités par le travail, ce sont les immigrés, les enfants, etc., etc.
Non, monsieur, je ne pense pas qu'on puisse autant catégoriser les gens, parce qu'à mon avis, il y a autant de souffrances, peu importe nos origines et peu importe le domaine. Auquel on appartient.
Il me semble que la douleur dans le travail, elle est originée par les religions. C'est les religions qui ont institué la douleur dans le travail. Par exemple, les flagellations, etc. En Iran, par exemple, il y a beaucoup de chiites qui se flagellent en pensant que c'est quelque chose pour abonder à Dieu.
Il y a d'autres questions.
Oui, mais je rejoins monsieur, hein. Et je vous remercie en tout cas de ce que vous avez dit, parce que ça me paraît essentiel dans en tout cas l'approche intelligente qu'on peut avoir du travail. Bon, je peux lâcher. Bon. Et puis je rejoins aussi monsieur, c'est-à-dire que pour moi, travail, ça veut dire torture. Hein, d'accord. Donc, c'est bête et méchant. C'est bête et méchant. Moi, je suis pour le RMI à 1 500 € par mois. Hein, d'accord. Je suis pour rien foutre dans la vie. Rien foutre dans la vie, ça veut pas dire pas travailler, ça veut dire plein de choses à côté. Donc, j'aimerais savoir ce que vous pensez.
Et est-ce que le travail, justement, il fournit pas plein d'autres choses à côté à part cette souffrance ?
C'est pour ça que c'est ma question. C'est pour ça que je voudrais savoir un petit peu. Et d'ailleurs, vous avez été très clair là-dessus et je saurais pas le redire un peu mieux, mais bien sûr, le travail est un accomplissement personnel, etc., etc. Il y a plein de gens qui sont là pour le dire. Et puis moi aussi, en premier, puisque vous avez parlé d'un corps de travail qui s'appelle le médico-social, d'accord, auquel j'appartiens. Et en même temps, comment on va faire plus tard? Bon, c'est même pas ma question, en fait. C'est même pas ma question.
La question, c'est une question.
C'est même pas ma question, comment on va faire plus tard, parce qu'on l'a déjà posé avant. Mais... Pardon.
Mais par contre, je
suis un partisan de bannir le travail, en fait.
Mais je crois que...
Donc, cette réflexion, je pense qu'elle a le mérite d'exister. Et je voudrais la partager. Moi, je suis pour bannir le travail. Je suis pour bannir la torture.
Pour vous répondre.
Et je vous remercie, pardon. Je vous remercie parce que ce soir, j'ai l'impression de vous avoir rencontré et de vous respecter en tant que personne intelligente. D'accord. Donc je tenais à vous remercier parce que ce que vous avez dit m'a beaucoup plu.
Il y a d'autres questions. Non, mais.
Sur l'abolition du travail. J'aimerais encourager la réflexion entre nous de l'abolition du travail. Donc
et
ça
non.
peut paraître bizarre parce que derrière le travail, vous l'avez raconté tout à l'heure, il y a plein de valeurs que moi je défends
et
pas du tout.
Et justement, c'est ces valeurs-là qu'il faut qu'on défende aujourd'hui.
Non, moi je le défends pas
si
du tout.
Parce que si on tient ce discours de justement il faut abolir le travail, oui. on perd justement la notion de résistance.
Non, dans le
et
sens abolir le salariat.
Qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui.
Dans le sens abolir le salariat, c'est pas dans le sens du travail, c'est dans le sens abolir le salariat. Je suis pour l'émancipation de l'individu. Hein, d'accord, moi j'ai choisi le travail que je fais.
Eh ben monsieur, si vous êtes justement pour l'émancipation de l'individu, battez-vous pour le travail que vous avez et battez-vous pour qu'il retrouve ses valeurs.
Pas le travail du prolo usinant. Merci.
Merci. Nous sommes des humains, nous avons un sens de la vie en société. Alors moi, je suis une ancienne, mais on disait à nos enfants qu'il faut travailler pour participer à la bonne marche de la société. C'est une chose. Alors deuxièmement, vous parliez de la déréglementation du travail. Et moi, j'ai compris la trop forte réglementation à cause de tous ces experts dont vous parliez.
Eh oui.
Alors, et dernière chose, la mondialisation. Est-ce que vous avez ressenti ça partout, qu'en Europe, etc. Voilà.
Ajouter simplement que cette déréglementation annihile complètement le mot métier.
Ah ben bien sûr. Alors, pour vous répondre, je ne sais pas trop si j'ai retenu les trois questions. La première, c'était sur la déréglementation du travail.
Oui.
Et
que le travail a un rôle social.
Social, bien sûr.
Pour que ça marche.
Bien sûr. Et c'est justement parce qu'on est en train de détruire ce social, parce que ce phénomène, il n'a pas lieu qu'au travail, on assiste à toutes ces dérégulations, même au sein de la société. Et j'ai envie de dire que, du coup, la société et le travail se répondent quelque part, parce que, justement, parce qu'on est des êtres humains et qu'on vit la même situation, autant hors travail que dans le travail. C'est une histoire de culture qui se joue à ce moment-là. C'est dans la culture que ça se joue. Et cette culture, elle est beaucoup trop animée aujourd'hui par des valeurs capitalistes, par des valeurs économiques. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah justement, il s'agit justement on nous fait croire, malheureusement, qu'on n'a plus de pouvoir parce qu'on est guidé par cette économie. Je crois que c'est pas vrai. L'économie, elle marche à cause de nous. Grâce à nous. Pardon, elle marche grâce à nous. Donc à nous de trouver justement déjà la force de se dire qu'on a encore du pouvoir.
Moi, juste... juste quelques réflexions quand même. Je crois que pour l'instant, n'était pas une grève générale. Il me semble que les salariés avaient la possibilité de s'exprimer pas plus tard qu'hier dans le cadre des élections prud'hommes. Ben, écoutez, déjà, c'est une des premières choses. J'ose espérer que chacun a accompli le devoir qu'il devait accomplir. J'ai pas fini. Cela dit, c'était pas mon intervention que je voulais faire, puisque... Non, je crois qu'il faut avoir l'habitude d'écouter les autres quand ils ont envie de parler. On vous a écouté, donc c'est l'essentiel. Merci. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, tout est concurrence. Or, c'est bien ce à quoi il nous faut réagir et avancer pour lutter par rapport à ça. On voit bien que la concurrence, où ça nous mène, vous l'avez fort bien démontré, je ne veux pas plus en rajouter. Pourquoi je dis ça ? Parce que quelqu'un a parlé à une époque, on travaillait plein d'heures. L'évolution et le sens de la vie, c'est qu'on travaille de moins en moins. On devrait travailler de moins en moins. Or, les 35 heures, effectivement, moi je partage le fait que les 35 heures n'ont jamais été réelles. Parce que à chaque fois, il a fallu que les salariés rattrapent le travail qui n'était pas fait dans les 4 heures restantes. J'ai encore pris un exemple très concret aujourd'hui. Moi, je vous invite, alors qu'on vous rabâche les oreilles à la radio ou à la télévision tous les jours que les entreprises automobiles aujourd'hui travaillent moins, où on met les gens en chômage depuis le 15 décembre jusqu'au 15 janvier. Moi, je discutais il n'y a pas plus tard que 2 heures avec un salarié d'une usine, pour pas la citer, Iveco Bourbon-Lancy, où effectivement, ils vont être en chômage, mais depuis 3 semaines, ils travaillent à fond la caisse pour avoir un stock avant, à l'avance. Donc, voyez les choses, comment ça se présente. Alors, je vais rajouter autre chose. Ceux qui pensent qu'effectivement la souffrance au travail n'existe pas, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans une usine à la chaîne en 3-8, il a 7 ans d'espérance de vie de moins qu'un autre. Donc, il faut aussi de temps en temps regarder les choses jusqu'au bout. Alors, moi, je crois que, là encore, la question qui est posée par la dame, là, est-ce qu'on peut faire autrement? Or, c'est pas dans l'air du temps, certes, mais au jour d'aujourd'hui, il y a certaines formes d'économie qui se développent, et je pense notamment à l'économie sociale et solidaire. Il y a quand même besoin de travailler et de construire à partir de ça. Parce que ce soit le système coopératif notamment, il y a une manière de travailler autrement. Ben oui, l'économie sociale et solidaire, on a quelques exemples dans le département et je m'en félicite. Il y en a une pas très... Oh, mais non, faut pas le bâillonner, il faut surtout qu'il écoute et essayer de comprendre. Le système social et solidaire, bon, alors laissez-moi finir, j'irai jusqu'au bout. Je vais prendre 2 exemples et puis je m'arrêterai parce que je veux pas monopoliser le débat. On a une entreprise, pour pas la nommer, qui est pas très loin de là, qui est à Clamcy, qui s'appelle La Ballerie, qui est gérée sous forme d'une coopérative. Ça, c'est la première chose. Ben, que ce soit François ou un autre, peu importe. Mais c'est le système de gestion, hein, où les salariés ont leur mot à dire, justement, dans la vie de l'entreprise. Autre exemple que je connais plutôt bien, c'est comment sont gérées les mutuelles aujourd'hui. Ce sont les adhérents qui décident de ce qui se passe dans leur propre mutuelle et ce qui se décide aussi dans... Ben écoutez, on fera une discussion tous les deux si vous voulez après. Hein. Et après, ce qui se passe aussi dans la gestion des services de soins et d'accompagnement dans les mutuelles, que je pense aux services dentaires, c'est pas tout à fait la même chose quand un dentiste il travaille dans un centre dentaire mutualiste que quand il travaille en libéral. Et je pense aussi aux assistantes. dentaire. C'est pas tout à fait la même chose quand on travaille comme aide à domicile dans une association ou quand on travaille comme aide à domicile pour une boîte privée. C'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a plein d'exemples aujourd'hui qu'on peut mettre en avant dans travailler autrement et gérer les entreprises autrement.
Merci. Chose à dire, Fatima, non?
Ben non, je crois que c'était plus un constat et un commentaire qu'une question.
Il y a une question par ici, pardon, une intervention.
En fait, c'est pas une question, c'est je voulais ajouter un avis personnel dans le métier du social, être soignante en maison de retraite. Et je me disais qu'en fait, bon, j'ai quitté mon métier après 17 ans. C'était un métier de cœur, une vocation. Et je l'ai quitté à cause de la souffrance au travail. Et je me disais qu'en fait, les gens qui ne s'investissent pas, justement, comme on disait tout à l'heure, sur leur lieu de travail, à s'investir, à faire des heures plus qu'on en fait, eh ben, ils ne connaîtraient pas la souffrance comme moi, je l'ai connu, en fait. Je me dis, en fait, dans mon boulot à moi, perso, j'ai dû trop m'investir, ce qui a fait que j'ai quitté le métier que j'aimais pour me retrouver dans autre chose. Et je me disais que, voilà, la souffrance au travail, c'est de si on s'investit de trop. Parce que j'ai remarqué qu'autour de moi, les gens qui se sont pas investis, qui venaient faire leurs 8 heures de boulot par jour pour gagner leur salaire à la fin du mois, eh bien, ces gens-là, rien ne pouvait... Enfin, voilà. Bah, c'est ça qui est, en fait, qui est dur dans...
Après, moi, j'ai envie de vous répondre que il y a aussi des gens qui ont arrêté de s'investir parce qu'ils ont aussi baissé les bras. Et que face, justement, au fait de baisser les bras et d'arrêter de s'investir, il y a une espèce de paralysie de la pensée qui se met en place où, en fait, on exécute parce qu'on n'a plus le choix et que, voilà, on laisse faire. Et en effet, on laisse faire parce que le travail devient qu'un outil pécunier. Je pense pas qu'il y ait moins de souffrance, mais c'est juste qu'à un moment, on a arrêté. On a arrêté de s'impliquer davantage parce qu'on se rend compte que c'est plus possible et que c'est un choix entre sa propre survie à ce moment-là ou la survie de l'entreprise. Donc, je pense pas qu'il y ait moins de souffrance chez ceux qui ont arrêté, chez ceux qui ont baissé les bras et qui, du coup, s'investissent moins. Par contre, il y a peut-être, à mon sens, à un moment chez ces gens-là, donc du coup, ceux qui se désimpliquent, ceux qui se désinvestissent, peut-être à un moment, une prise de conscience de ce qui se passe réellement dans leur travail.
Alors, pour aller dans le même sens, moi je dis sûr, le travail peut épanouir. Infirmière, pendant plus de 40 ans, je me retrouve dans votre défense. Le matériel essentiel étant simplement l'être humain et lui-même dans la souffrance. Et ce que je voulais ajouter pour vous personnellement, je souhaite que vous soyez entendu de nombreuses fois au-delà de l'université des bistrots.
Merci.
Merci. Ça marche ? Oui. Je voudrais dire deux ou trois choses. Une ou deux que je voudrais dire avec un caractère raisonnable et puis une ou deux autres que je voudrais dire avec un caractère déraisonnable, c'est-à-dire utopique. La première chose raisonnable, c'est vraiment d'avoir été très heureux de vous entendre souligner le problème de l'estime de soi qui, finalement, au bout d'un certain temps, à force de l'intériorisation de tout ce qui est, qui pèse sur les personnes, et là vous parliez de personnel hospitalier, c'est la même chose.
Mais c'est le cas partout.
Et vous savez, à l'heure actuelle, il y a à peu près 20% de la population ouvrière qui travaille dans le transport, les livraisons, et cette pression qui les amène à intérioriser ces exigences et les amène à douter de leur propre qualité, de leur propre valeur, dont ils ont eux-mêmes à rendre compte aux clients. Et ce n'est plus l'entreprise qui rend compte, c'est le salarié qui rend compte aux clients. Et je pense aux camionneurs, ça les amène à faire des excès de vitesse, ça les amène à conduire beaucoup trop longtemps, ça les amène à prendre des risques, ça les amène à se tuer, ça les amène à tuer les autres. Bon, j'en resterai là, hein, sur les dimensions raisonnables, auxquelles j'ai quand même envie d'ajouter que les cabinets de thérapeutes, de psychiatres, de psychanalystes sont de plus en plus envahis par des gens qui effectivement perdent totalement l'estime d'eux-mêmes en se disant « si au boulot je réussis pas et tout, c'est que je suis un pauvre mec, une pauvre nana, un pauvre imbécile ». Voilà ce que je voulais dire qui me paraît raisonnable et acceptable par à peu près tout le monde. Je voudrais quand même dire autre chose qui l'est beaucoup moins, mais l'utopie est quand même un moteur. Tout à l'heure, on a parlé du religieux, de la flagellation, etc. Je vais m'y référer, mais non pas en termes de religiosité, mais en termes de mythologie. Il y avait le paradis terrestre, où on ne travaillait pas. Alors, on a fait une chose qu'il fallait pas faire et qui apparemment était un peu d'ordre sexuel, semble-t-il. Mais enfin, bon, mettons ça entre parenthèses. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et je rajouterai aussi, dans un autre domaine beaucoup plus féminin, tu accoucheras dans la douleur.
Bien sûr.
Donc, la souffrance a été quand même, pendant des siècles, pour pas dire des millénaires, véhiculée comme un des critères essentiels du mérite, du gain, du salut. Alors, il s'ensuit que le drame du travail, et je vous préférerais d'ailleurs, surtout étant retraité maintenant, remplacer le mot travail par activité, qui me paraîtrait beaucoup plus intéressant et qui donnerait satisfaction à Pierre, qui tout à l'heure disait plus de salariat et tout. Le problème, effectivement, c'est que y a un lien trop consubstantiel entre la satisfaction des besoins élémentaires de tout être humain, manger, être à l'abri, ne pas avoir froid. J'en resterai là parce qu'il y en a tellement d'aussi importants, et lié à un salaire. Donc le travail, c'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, un apport à la société, ce n'est pas la possibilité de se réaliser, de s'exprimer, d'aider, c'est le moyen indispensable pour ne pas crever. Donc, on en est là. Alors, pour finir sur une note complètement déraisonnable et utopique, j'ai découvert, j'en avais déjà entendu parler, mais ça m'avait un petit peu surpris. Mais j'ai découvert dans un manifeste dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler au moment des contributions et autres dont on a été envahi, qui a été fait par un groupe qui s'appelle Utopia, et lequel groupe prône une allocation universelle que tout être humain, dès sa venue au monde, aurait la possibilité de bénéficier. Bon, on en a évalué plus ou moins le niveau 500-600 euros, qui permettrait, dans une société où seraient régulés les prix, les coûts, etc., une espèce d'allocation. C'est de l'utopie totalement, je vous dis pas qu'on va le faire, que je milite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens très très intelligents et très raisonnables, et vous allez être surpris, Madame Boutin elle-même, il n'y a pas très longtemps, a proposé quelque chose dans ce sens. Alors, elle l'avait limité à 200 euros, ce qui me paraît un petit peu bas. Mais c'est quand même très intéressant, mais ça, c'est à cause de ses convictions religieuses, etc., qu'elle a repris ce type de, d'argumentation. Mais si vous voulez, dans le manifeste Utopia, il y a donc l'idée de dire tout être humain en venant au monde doit avoir une allocation qui lui permettra de satisfaire ses besoins élémentaires. Si à côté de ça, il veut une voiture personnelle, il veut un écran plat, il veut une chaîne ceci, cela, il veut offrir des bijoux somptueux à sa petite amie, à ce moment-là, qu'il aille bosser. Alors, bon, vous allez me dire, c'est excessif, c'est utopique, mais l'utopie est toujours porteuse de quelque chose d'intéressant. Et là, elle vient souligner la gravité de la liaison entre le travail et non plus l'activité et, ce que je disais il y a un instant, la possibilité de ne pas crever.
Merci beaucoup. Merci. Tu veux dire quelque chose ?
Bah oui, j'ai pas mal de choses à dire à Michel, c'est ça. La première, c'est qu'en effet, les psychiatres et les psychologues se rendent bien compte que depuis 20 ans, les gens ne viennent plus dans leur bureau pour parler de leurs problèmes familiaux, mais en effet de ce qu'ils vivent au boulot, et que c'est sans doute la première chose qui a donné l'alerte. La deuxième chose, c'est ça serait revenir sur votre utopie. Cette allocation, elle viendrait d'où ? Si elle vient en effet de notre système économique, on est de nouveau instrumentalisé. On est de nouveau enchaîné. Ouais.
Moi-même, je me suis insurgé la première fois qu'on en a parlé il y a quelques années, je me suis dit c'est complètement fou. Avec le type d'argument que tu développes. Je n'avais pas prévu d'évoquer cette question-là. Je suis retombé sur cette proposition en lisant le manifeste Utopia, parce qu'il y avait des choses qui me paraissaient extrêmement intéressantes à l'intérieur. C'est évidemment toute une autre façon de concevoir la société. On a une planète... Alors, il y a des problèmes démographiques aussi qui viennent se greffer là-dessus. Hein. Ça serait trop long. Et bon, je t'accorde qu'il y a ce gros argument d'où ça viendrait. Les réponses existent, elles sont développées, et on pourra peut-être faire un jour un débat et un travail sur ce type de thème, je ne veux pas me dérober. Hein. Mais j'ai annoncé que ça serait déraisonnable, ce que j'allais
dire.
Oui.
Voilà, il y a une autre question ici.
Oui, juste, je voulais apporter trois nuances. La première concerne l'économie sociale et solidaire. Le C de CAMIF, ça veut dire coopérative, et ça vient de licencier 800 salariés. La deuxième chose... toujours sur la lutte collective, il y a deux jours les élections au Prud'homme, plus d'inscrits, moins de votants qu'en 2002. Et la troisième chose, dans votre exposé, vous avez parlé de la hiérarchie, vous avez parlé des salariés et de la hiérarchie en les opposant quelquefois, enfin, c'est ce que j'ai cru percevoir. Je crois que l'encadrement est aussi souffre souvent. Elle se retrouve très souvent en position d'être entre le marteau et l'enclume. Et quand la souffrance est-elle dans l'équipe, je parle de l'équipe parce que je connais bien, je suis aussi dans le milieu hospitalier, et quand la souffrance est-elle dans l'équipe qu'elle s'en prend à son cadre, je ne vous dis pas les dégâts que ça peut faire. Voilà.
Alors pour vous répondre sur la hiérarchie et sur l'encadrement, mon propos justement n'était pas de dire que cette hiérarchie et cet encadrement ne souffraient pas. Parce que je crois qu'en effet, les chefs d'entreprise, tout comme les personnels d'encadrement, sont soumis à une pression, sont soumis également à diverses contraintes. Donc il y a une souffrance chez eux qui est à prendre en compte. Mon propos était de dire en revanche que si par contre les salariés n'avaient pas le choix, pardon, que si par contre les salariés n'avaient pas le choix par rapport aux contraintes qui leur étaient imposées, au niveau de la hiérarchie et de l'encadrement, ces contraintes, elles étaient déléguées au fur et à mesure. Par contre, je ne nie absolument pas qu'il y a en effet souffrance chez le personnel de l'encadrement et chez la direction.
Bonsoir et merci beaucoup parce que vous avez éclairé bien aux lanternes ce soir. Parce que moi et puis pas mal de mes confrères travailleurs du médico-social, on vit ce que vous venez d'expliquer, quoi, une souffrance au travail, parce que ben moi en fait c'est une dénonciation. Voilà, je travaille dans c'est un des plus grands employeurs de la Nièvre. Et pour l'instant, ben, on est, entre guillemets, dirigé, gouverné par un gourou qui nous fait croire plein de trucs, qui nous fait partir dans tous les sens, croire à des monts et merveilles. Et il y a un mois de ça, il y a un chef de service qui s'est suicidé au bureau, à son bureau. Suite à ça, suicidé. Suite à ça, le directeur de l'établissement, on lui a conseillé de prendre des jours de congé pour lui faire porter la responsabilité. Et voilà où on en est. Et je pense qu'on en est à un troisième chef d'établissement mis de côté, on va dire, parce qu'il rentrait pas dans les normes de fonction économique, on va dire. Ce que vous disiez tout à l'heure, quoi, c'est exactement ça. Donc, je voudrais dénoncer qui fait un faux pas, et on est dans le social, il faut faire attention. Voilà.
Juste une question pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ce suicide par rapport à l'équipe? Est-ce qu'il y a eu des discussions entre vous? Est-ce que y a une aide extérieure qui a
oui.
été envoyée?
Oui, tout a été mis en place. Il y a une phrase qui a beaucoup interpellé l'ensemble du personnel, on va dire, qui était une phrase du directeur général de l'association, qui disait que il fallait pas juger l'acte, que l'acte appartenait à la personne, et comme ça, on endort toute pensée de problème lié à l'association, lié à l'organisation. Et on réfléchit pas, on retourne au boulot tranquille. Il nous a donné une semaine de deuil, on va dire. Mais on en est là, quoi. Je dénonce. On en est à dénoncer là.
D'accord. En gros, c'est un peu ce que notre ministre du Travail fait aujourd'hui. En l'occurrence, il fait une grosse enquête sur soi-disant les causes du stress professionnel et pourquoi les suicides, etc., ont lieu. Et puis la conclusion, elle est déjà faite, c'est qu'en effet, on est tous névrosés parce que on ramène nos problèmes professionnels au travail. Ça serait ça. Nos problèmes personnels, pardon, au travail. Ça serait un peu ça qu'on vous a dit, du coup. D'accord.
Alors, ce qui me terrifie là par rapport à l'intervention tout de suite, c'est que dans le médico-social, on s'occupe de gens. Tu y as fait allusion tout à l'heure, et donc ça doit être d'autant plus difficile de après des drames pareils, après une déstabilisation telle, enfin aussi forte, de pouvoir. On doit culpabiliser énormément de comment on peut s'occuper après des gens dont on a à s'occuper, que ça soit quand on est infirmière, quand on est éduque, quand on est formatrice, formateur, etc. Donc ça, c'est juste une réflexion par rapport à ça. Deuxièmement, le burning out. Donc ça, c'est quand on va à l'extrême, c'est-à-dire quand on... j'aimerais bien que tu en parles, s'il te plaît. Et puis, il y a la troisième chose que j'aimerais bien que tu abordes. Elle a été abordée, mais peut-être mettre l'accent un petit peu, sans prolonger la conférence trop, mais sur la notion, justement, de métier et de travail. C'est-à-dire quand on choisit, quand on est éduque, infirmière ou même ouvrier, qu'on aime son usine, qu'on aime le travail qu'on fait, la production qu'on fait, l'entreprise pour laquelle on travaille, comment après cette notion de métier et d'amour du métier, même si amour c'est un trop grand mot, mais d'intérêt pour le métier qu'on a choisi quelque part à un moment donné et qui en fait est complètement anéanti à un moment donné. Merci.
Alors concernant le burn-out, c'est très différent de la souffrance au travail dans la mesure où il s'agit en effet d'une souffrance, mais dans le burn-out, la souffrance provient des caractéristiques mêmes du travail. Ça veut dire que chez, par exemple, ça, on en a notamment parlé pour les éducateurs, ça veut dire qu'à un moment, en fait, les composantes, les caractéristiques mêmes de ce travail, l'aspect du coup très humain qui est vachement perméable au final, où on ramène toujours des choses chez soi, où on est toujours amené à se dépasser en permanence et puis à affronter des choses relativement difficiles, c'est justement ces caractéristiques mêmes du travail qui créent le burn-out. Dans la souffrance au travail, c'est un système économique, c'est un système de fonctionnement qui vient empêcher le travail et qui du coup crée de la souffrance. Donc on est sur deux choses bien différentes. Après, concernant le travail et le métier, je crois que le travail fait référence bien plus à tout ce qui est tâches prescrites. C'est-à-dire, oui, les outils qu'on doit utiliser, la façon dont on doit faire son travail, comment le faire, etc. Alors que le métier fait plus référence à la vocation, fait plus référence au sens. Donc, lorsque le travail est atteint, lorsqu'on enlève le sens du métier, justement, par toutes les déréglementations, c'est pas le travail lui-même qui est atteint, c'est-à-dire la tâche prescrite, mais c'est le métier, c'est-à-dire la vocation au final.
Sur le problème du métier, il y a, on retrouve des stratifications avec des aristocraties inévitables et regrettables. Il y a des gens qui peuvent avoir un métier qui corresponde à un choix de vie. C'est plus un métier, c'est un mode d'être au monde. Prenons le cas des musiciens, des artistes, par exemple, hein, pour prendre le cas le plus ultime. Mais il y a aussi, là, je voyais des personnes en Afrique, des femmes séropositives qui se battent pour soigner, pour aider, et qui sont elles-mêmes séropositives. Et qui, à cause de ça, ont décidé de faire un travail d'infirmière dans ce secteur-là. C'est plus un métier, c'est un mode d'existence, c'est un mode d'être au monde. Ça va beaucoup plus loin. Alors, le problème, c'est que est-ce que une société dont la démographie sur la planète croît et embellit de chaque jour, peut, je dis pas offrir, mais donner la chance que énormément d'êtres humains puissent avoir une tâche qui soit un choix de vie, qui soit un mode de vie. Ça existait avant, les artisans, le boulanger. Si le boulanger m'a dit en songe, fais ton pain. Hein, c'était Sully Prudhomme ou je ne sais plus qui. On était indispensable. On était indispensable, mais on le savait, on en avait conscience. À l'heure actuelle, il y a tellement de... Est-ce qu'une caissière dans un supermarché a la moindre chance de pouvoir un jour penser que son travail est intelligent et utile? C'est une question que je pose. Je n'ai pas la réponse. Et pourtant, je fais des courses en supermarché parce que c'est moins cher.
Par rapport aux caisses automatiques qui sont mises en place, je suppose que vous allez voir les caissières.
Alors,
Pourquoi vous allez voir les caissières par rapport aux caisses automatiques?
Je parle toujours avec les caissières quand je vais faire mes courses.
Il y a bien une utilité dans leur fonction.
Cette utilité, effectivement, mais à condition qu'on la leur redonne.
Oui, et bien justement, l'utilité, elle vient justement de nous, voilà, de la reconnaissance qu'on fait de leur propre métier.
Je crois que
c'est nous qui donnons un sens à ce métier-là et qui fabriquons le sens qu'elle se donne.
Et voilà, elle est très très liée à la façon dont nous percevons les travailleurs dont l'activité est un bénéfice pour nous. Je voudrais revenir, puisque j'ai le micro là maintenant, je voudrais revenir sur la durée du travail. Le travail, à une époque, c'était pas 40 heures, c'était 60, 70, 72 heures. Et les enfants travaillaient à 5 ans dans les mines. Hein. On est arrivé à 40 heures, au moment de 36, du Front Populaire. Et depuis, il n'y a pas eu beaucoup de progrès, d'ailleurs, parce qu'après, on est passé à 39 en 81. Et puis, il y a eu cette affaire des 35 heures, mais qui est arrivée à un moment où, comme tu l'as bien expliqué, ça a été récupéré. Mais ce qu'il faut dire, quand même, c'est que depuis l'aube de la société industrielle, disons le 19e siècle, la productivité n'a cessé d'augmenter. Et que, par conséquent, le besoin, et ça rejoint un peu mes propos déraisonnables de tantôt, qu'il faudrait pondérer, la productivité n'a cessé d'augmenter. Et par conséquent, là où il fallait 100 personnes pour fabriquer une voiture, il n'en faut plus que 2 parce qu'il y a des machines, parce que etc. Et d'où vient le problème? Et là, il est vraiment d'actualité. Je pense qu'il est important que ce soir, il soit évoqué. C'est que le capitalisme qui a fait beaucoup de dégâts au temps où c'était le capitalisme familial, celui des mines, etc., du temps de Zola, l'Assommoir, etc., aujourd'hui, le capitalisme est devenu financier. Et par conséquent, une énorme partie du résultat du travail des salariés part en dividendes. Vous savez que les dividendes sont de l'ordre de 20%, alors que même les banquiers vous disent que l'argent ne peut pas rapporter plus de 5%. Et par conséquent, la part de tout ce qui est produit par l'activité travail part en majeure partie, et ça ne cesse de croître et embellir depuis 20-30 ans. On vous donne des chiffres qui sont hallucinants. Le profit, ça me plaît pas. Le résultat de l'activité des êtres humains part vers les possesseurs du capital. Et non plus, c'est pour ça que d'ailleurs dire le patronat à l'heure actuelle, c'est une aberration. Il y a encore des gens qui emploient ces termes-là.
Il n'y a plus de patronat, il y a des actionnaires.
C'est vraiment les financiers.
Après, pour revenir moi sur la question de vos 35 heures et le lien avec la productivité, c'est vrai que c'est un gros leurre. C'est vraiment un gros leurre parce que on a baissé justement le temps de travail en disant aux salariés on va vous libérer pour pouvoir justement aller vers du loisir soi-disant. Mais en effet, quand on raisonne en termes de productivité, la productivité est dans le rapport entre le volume de production et le nombre de salariés ou le nombre d'heures travaillées. En effet, on comprend que moins il y a de salariés ou moins il y a d'heures travaillées, plus la productivité est élevée. Alors, c'est vrai, c'est un gros leurre, parce qu'il ne s'agissait pas de libérer les salariés pour justement qu'ils aillent vers les loisirs. Il s'agissait surtout d'augmenter la productivité des entreprises. Donc là, je rejoins votre analyse, en effet. Et après, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il n'y a plus de patronat, mais que des actionnaires, dans la mesure où la plupart des entreprises aujourd'hui ont toutes des parts rachetées par des actionnaires qui se retrouvent un peu partout dans le monde et qui, du coup, décident pour les entreprises dont ils ont les parts.
Oh,
Donc, je voulais juste répondre par rapport aux conditions de travail après le suicide de notre chef de service. On a été très soutenu par notre directeur d'établissement. Et par la suite, en fait, vu qu'il a été mis en congé presque forcé, on va dire, on lui a poussé dehors. C'est le cafouillage le plus total. Nous, on est dans le doute le plus complet par rapport à notre direction générale. On a plus de chef. C'est la panade totale, quoi. Voilà, pour te dire. Personnellement, c'est un drame, c'est sûr. Mais on a été épaulé par tous les collègues, par une prise en charge psychologique. Il y a une cellule un peu de crise, on va dire, voilà, qui a été mise en place. C'était très très bien fait, mais c'est ce qui en découle après, quoi, qui est malsain.
Qu'est-ce qui en découle justement?
Eh ben le fait que notre directeur d'établissement soit presque voilà mis à la porte parce que quoi, éclipsé. Éclipsé parce que c'était un des derniers maillons qui était un peu contre le directeur général, qui est une grande gueule comme on dit, et puis qui se laissait pas faire contre les façons de faire économiques, les budgets, etc. quoi.
Donc quelque part le suicide a bien servi pour essayer de le mettre à l'écart.
Ouais.
Et vous, malgré les aides,
c'est ce qu'on pense. C'est tellement dit indirectement, fait de manière on se prend la tête, on y réfléchit, et puis on n'a pas de réponse, on a plein de questions, mais pas de réponse, on ne sait pas qui les poser, on est perdu, et puis du coup les jeunes le ressentent énormément.
Et vous, malgré les aides, malgré tout ce qui a pu se mettre en place, votre propre ressenti face à ce suicide justement?
Face au suicide, moi je l'ai pas pris de manière professionnelle en fait, le suicide. Pour moi, c'était pas un acte professionnel.
C'est-à-dire?
C'était plus un acte personnel qui a été fait dans un lieu professionnel.
Oui, mais l'acte personnel, s'il a été fait dans le lieu professionnel, c'est bien qu'il y a peut-être un lien entre le professionnel et le personnel.
Il y en a peut-être, mais vu qu'il n'y a pas d'explication de la personne, je peux pas le juger, quoi. Chacun fait donne sa réponse à ça. Moi, je peux pas donner de réponse pour un mort, quoi.
Ça m'embête un petit peu d'introduire un mot, mais voilà exactement le cas de dialectique, le bien et le mal. Je pense que ceux qui ont les moyens, ils fournissent du travail, mais ils ne travaillent pas. Donc il y a une discrimination entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et c'est justement ça qui est la philosophie. La philosophie, c'est la frontière qu'il y a entre ceux qui veulent travailler et ceux qui dépendent du travail et ceux qui n'en dépendent pas, oui ou non?
Je ne crois pas que ça soit si tout blanc ou tout noir.
C'est un aspect dialectique, c'est-à-dire le bien ou le mal. C'est-à-dire qu'on peut faire les frontières.
Mais il y a du bien justement parce qu'il y a du mal, et il y a du mal justement, et on peut supporter le mal justement parce qu'il y a du bien.
Ça c'est une discussion purement sociologique, c'est tout ce que vous dites.
Mais en fait, et oui, monsieur, mais dans la vie ou dans tous les domaines, il n'y a pas une juste frontière entre une chose et une autre. C'est bien parce que les deux se mélangent que les deux ont un sens.
Moi, je pense
que c'est bien parce que travailler, c'est aussi du plaisir qu'on s'y investit.
La culture de l'utopie est importante parce qu'il y aura un temps, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, où les machines feront le travail pour l'homme. Alors donc, il faut être utopique, même si c'est pas pour demain. Mais il faut être utopique. C'est ça. On est là pour ça.
Je suis d'accord avec l'idée qu'il faut être utopique parce que l'utopie fait vivre.
On a une dernière intervention. Une dernière intervention. Puis après, on va clore avec Fabio.
La vie s'écoule. La vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps perdu ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps perdu ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Nos yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence.
Bravo Gaspard. Ah, bon. Merci, bon, merci Fatema.
J'aimerais juste dire un dernier mot. Je travaille essentiellement avec des témoignages. Donc, pour toutes les personnes qui sont là et qui ont des choses à dire, vos propos et votre témoignage sont les bienvenus parce que je vais m'en servir. Bien sûr, tout est anonyme, donc ne craignez rien. Mais pour que ce que je raconte, ça soit le plus vrai possible, bah, j'ai besoin de vous. Alors, pour ceux qui ont des choses à dire, n'hésitez pas.
Merci.
Merci à vous.
Merci, merci.